Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut Nicole.
Bonjour Geneviève.
Écoute, quand je préparais l'émission tantôt puis je lisais le segment qu'on allait faire ensemble, je me disais, coudon, c'est déprimant. C'est toutes sortes de nouvelles vraiment morbides qui concernent les femmes. Hier, on se parlait d'une histoire à coup de joie, que possiblement un meurtre conjugal. Puis d'ailleurs, petite parenthèse là, j'étais vraiment catastrophée hier quand la nouvelle dont on s'apprête à parler est sortie. Une femme de 44 ans qui a été tuée à Saint-Hyacinthe, son conjoint était accusé du meurtre. Dans plusieurs médias, puis je veux pas jeter la pierre sur aucun là, cette erreur là se retrouve dans tous les médias de façon sporadique, là, on a parlé d'un drame conjugal. Faut arrêter d'utiliser cette expression-là. On a assez parlé de violence conjugale là, ces derniers temps. Je pensais qu'on avait compris. Les titreurs avaient compris aussi. J'étais vraiment persuadée de ça. C'est pas un drame conjugal. C'est pas un meurtre passionnel. C'est un homicide. C'est un homicide conjugal ou un féminicide. Parce que dans la notion de drame puis dans la notion de meurtre passionnel, c'est comme si c'était une conséquence de la relation amoureuse, comme si c'était une possibilité. C'est pas ça. C'est un meurtre, c'est un homicide. Donc, ça me choque toujours.
Oui, mais peut-être qu'on ajoute, parce que j'ai entendu des spécialistes experts souvent dans ma vie en matière, dans ce genre de drame-là, où on dit des drames dans un contexte de conjugal ou dans un contexte de
violence conjugale. Mais tu sais, pour des titres de journaux, on pourrait faire un petit effort. Il y a une différence en parler en cours et titrer un journal. Moi, à chaque fois, puis ça choque aussi les victimes de violence conjugale. Donc, à un moment donné, je pense qu'on est capable de faire cet effort-là. C'est, mais revenons.
C'est clairement un meurtre.
C'est
clairement des meurtres. C'est clairement des féminicides. Et il y en a eu beaucoup, là, depuis le début de l'année, évidemment. Et oui, il est accusé, cette personne-là, il est accusé de meurtre au deuxième degré. Je comprends un petit peu pourquoi dans les circonstances, parce que, évidemment, ça veut pas dire que ça changera pas, mais il faut vraiment un plan, quelque chose d'organisé, de propos délibérés ici. Je pense que c'est une escalade. Évidemment, il est non coupable jusqu'à preuve du contraire, là, mais on comprend tout ceci. Mais il reste que c'est lui qui est mis en accusation et qui va faire face, évidemment, à cette accusation de meurtre au deuxième degré, c'est-à-dire il est pas remis en liberté là, c'est clair.
Ouais, ben rappelons un peu les faits. Nicole Nancy Roy qui a été tuée dans son appartement de Saint-Hyacinthe, Jean-Yves Lajoie, son conjoint accusé du meurtre, tu le dis, au deuxième degré, poignardé cette femme dans son appartement, il a crié à l'aide, elle frappait sur le plancher, c'est ce que racontait le concierge du bâtiment. Puis c'est la voisine d'en dessous qui a appelé la police parce qu'elle a entendu les cris. Et vraiment le concierge raconte que quand il est arrivé, on était déjà en train d'essayer de faire des manœuvres cardiaques pour ramener la pauvre dame à la vie. Sur place, les policiers ont arrêté déjà le conjoint de la victime qui avait du sang sur les mains. Donc, tu sais...
C'est pas la première fois, là, et ni la malheureuse, j'ose espérer, on dit toujours, j'espère que ça va être la dernière, mais c'est pas la première fois que ça se fait de cette façon-là. Ça ne change rien au processus judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu des dossiers où, évidemment, la maladie mentale, on ne dit pas que c'est ça, là. C'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec toutes les preuves, le sang, le si, le tout, l'admission de c'est moi qui l'ai fait ou quoi que ce soit, à moins d'un plaidoyer de culpabilité, là, clair, net et précis, sans équivoque, il y a un procès, là, qui c'est à moins, comme je dis toujours, là, si on règle la chose autrement. Mais c'est sûr que ça va passer à travers, puis les enquêteurs ne lésinent pas, là. Ils vont effectivement retrouver et toute la preuve, vraiment colliger le tout, s'assurer, parce que eux, là, ils s'en vont là pour que ce dossier-là se présente devant le tribunal prêt, avec toutes les preuves bien ligotées, bien ficelées, peu importe ce qui arrive en bout de ligne, là. Peu importe le plaidoyer, peu importe la défense.
Je veux qu'on revienne sur cette histoire dont j'ai parlé un peu plus tôt avec Antoine Robitaille qui remplace Benoît Dutrisac. Une histoire troublante qui est relatée dans la presse. Un homme accusé d'agression sexuelle durant la quarantaine obligatoire à l'hôtel. C'est une femme qui revenait de San Diego où elle partageait sa vie avec son conjoint. À la suite de l'annonce du fédéral là, concernant la quarantaine obligatoire, elle revient ici, elle se prend un billet, passe un test rapide, arrive à l'aéroport. Son test n'est pas accepté, donc on lui dit d'emblée, écoute, tu devras aller dans un hôtel désigné pour mener une quarantaine. Ils l'ont mis dans un taxi, ils ont pris son passeport. Déjà là, c'est quand même assez drastique. Là. Elle avait pas l'air de trop savoir où s'en allait. C'est ce qu'elle relate dans l'article de la presse. On l'a conduit à l'hôtel Sheraton à Dorval. Là. On sait que les hôtels qui peuvent accueillir des voyageurs pour la quarantaine doivent être situés à moins de 10 km d'un aéroport. Donc, elle se rend là. Étage consacré aux voyageurs qui sont gardés en isolement. On lui tend un dépliant en arrivant avec les consignes. On lui dit pas le droit de filmer, pas le droit de prendre des vidéos, pas le droit de barrer ta porte. Et on dit même, ce qu'elle raconte, c'est que le loquet aurait été retiré. Parce que ce qu'on invoque, c'est qu'on doit avoir accès 24 heures sur 24 aux chambres. Et on spécifie dans le dépliant, puis le dépliant a été remis à la presse par ailleurs, là, on spécifie, vous êtes en sécurité. Eh bien, cette présumée victime-là n'a pas été en sécurité, Nicole, visiblement, parce qu'elle est sortie chercher une bouteille d'eau, a rencontré un homme qui lui a fait des avances. Elle a refusé ses avances. Elle a dit « J'ai un chum, je suis pas intéressée. » Le gars s'est invité contre son gré dans sa chambre à elle. Là, elle capotait parce qu'on n'a pas le droit d'être deux dans la même chambre. Et il a insisté, il l'aurait agressé sexuellement. Ça pose beaucoup de questions, cette histoire-là.
Oui, il y a beaucoup de questions. Mais moi, je suis très prudente. Là. Quand je lis là, le détail de ceci, là, et je ne dis pas que c'est pas vrai ce qui est arrivé, c'est pas ce que je veux qu'on comprenne, mais moi je demeure prudente parce que ça c'est ce qu'on allègue là.
Non, faut parler au conditionnel, c'est un témoignage.
Peut-être que c'est comme ça et avec toi et dans plusieurs cas depuis le début là que je fais des chroniques, on a eu des histoires qui ont été racontées d'une façon et malheureusement et heureusement a changé de version.
Oui, puis attends, c'est important de dire, Nicole, que la présomption d'innocence qui doit prévaloir ne fait pas en sorte qu'on ne croit pas la victime.
C'est pas ça. C'est que on a des allégations.
C'est ça.
C'est une grosse différence. Là. C'est une allégation que c'est ça. Puis ça prend une enquête profonde, sérieuse, parce qu'il peut avoir, oui, des accusations criminelles, mais peut-être, potentiellement, parce que je sens qu'on va me poser la question, est-ce que l'hôtel ou quiconque peut être responsable?
Mais le gouvernement, si on oblige les gens à ne pas barrer leurs portes.
Ben là, c'est parce que, encore une fois, est-ce qu'on a les documents? Est-ce qu'on a un document venant du gouvernement, ne pas barrer vos portes? Si c'est le cas, on va faire une enquête à cet effet-là, puis on va voir. Évidemment, là, on a beaucoup de... Moi, j'ai de la difficulté à comprendre que le gouvernement a émis une brochure, ou c'est l'hôtel, c'est pas pareil peut-être, là.
Faut le savoir.
Ça fait une grosse différence dans qui serait, entre guillemets, responsable s'il y a poursuite civile. On parle pas de criminel, là. Mm-hmm. On parle de poursuite civile. Parce qu'évidemment, en poursuite civile, on parle de faute, dommage, puis de lien de causalité. Si c'est l'hôtel qui a décidé d'émettre des directives puis qui disent que pour la sécurité, il faut qu'ils rentrent dans la porte, ben là, j'achète pas. Parce qu'ils ont des clés passe-partout, ça tient pas la route. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de misère à composer avec tout le détail. Je vais t'avouer, j'avais beaucoup plus d'interrogations après la
Ça pose plein de questions. C'est ça, on a beaucoup de questions. Puis moi, j'aimerais avoir des réponses. Puis notamment, j'ai des questions envers une partie de cette histoire-là qui porte pas sur la présumée agression sexuelle, mais bien sur cet impératif de ne pas prendre de photos ni de vidéos. Pourquoi?
Je sais pas.
Pourquoi? On est-tu en Corée du Nord? Je veux dire, c'est-tu des prisonniers?
Geneviève, ça vient de où?
Du dépliant. J'aimerais ça le voir, ce dépliant-là. Si la presse l'a vu, j'ai tendance à penser que la presse...
vient de où, le dépliant du gouvernement?
Mais c'est ça, il faut savoir. Il faut répondre à ces questions-là. Puis évidemment, c'est sûr qu'ils vont être interpellés parce que, écoute, quand on lit cet article-là, c'est absolument... À mon sens, c'est invraisemblable. Pas l'article, mais le fait qu'on oblige des gens à ne pas barrer leurs portes, à pas documenter leur séjour. Je veux dire...
Geneviève, c'est pour ça qu'on s'en parle et c'est pour ça que on va, puis encore une fois,
on va faire un suivi là-dessus.
On va parler là, pour faire un suivi, pour vous dire ah oui mais. Alors moi là, j'ai autant de questions que les gens qui écoutent, j'ai autant de questions que tout le monde, que les policiers. C'est un dossier qui évidemment, ça à la lecture même là, il y a plus de questions que j'aurais que pour écrire un texte que le texte lui-même.
L'hôtel n'est pas revenu encore aux médias. J'ai bien hâte de voir. Ils n'auront pas le choix de sortir de leur mutisme.
Exact.
5 ans et demi de détention pour un kidnappeur de femmes. Écoute Nicole, cette histoire-là, je m'en rappelle quand j'avais vu les images de l'arsenal de cette personne-là, ça m'avait donné froid dans le dos. Je rappelle là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Montréalais qui a harcelé une femme pendant des mois, qui en a enlevé une, qui l'a séquestrée, qui a séquestré une autre sous la menace d'une arme, condamnée à 5 ans et demi de détention. Les victimes trouvent que c'est pas assez, mais ce qui est quand même assez préoccupant et perturbant dans cette histoire-là, c'est que cet homme-là avait planifié son affaire. Il voulait enlever la femme en question, il voulait la ligoter, la garder. Il s'était équipé à un tel point, Nicole, là, qu'il était équipé pour garder sa future victime, finalement, pendant des mois dans sa résidence, je pense que c'était en Estrie. Il y avait une arme à air comprimé, il y avait un couteau, il y avait des menottes, des jouets sexuels, des vêtements, des condoms, du lubrifiant. Puis quand même, là, la deuxième victime, parce que la première, il a pas pu mettre son plan d'exécution, mais la deuxième, il a réussi à l'enlever. Et puis, elle a eu une espèce de moment complètement... Elle a qualifié ça, elle a dit « j'étais en mode survie », mais il l'a enlevé avec sa propre voiture à elle, une voiture électrique, et elle a prétexté qu'elle devait charger la pile de son véhicule afin de se rendre à destination. Et c'est là, elle a profité d'un moment d'inattention de cet homme-là pour s'enfuir, pour aller demander de l'aide.
Oui, et moi aussi, j'étais très... stupéfaite quand j'ai lu cet article-là, parce que je me suis dit, bon, OK. D'abord, premièrement, c'est clairement un individu qui a un problème beaucoup profond, à mon avis. J'ai aucune idée s'il y a eu une évaluation, mais je pense que il faudrait vraiment qu'on s'assure que cette personne-là, peu importe, là, il est en... Tu sais, on a le droit de demander certaines évaluations là, dans les circonstances, et si, et je dis bien, s'il est remis en liberté à un moment donné, va falloir s'assurer que... Parce que du pénitencier, c'est du pénitencier. Normalement, 5 ans et demi, là. Alors que la commission de libération conditionnelle s'assure que tu sais, ça n'a pas l'air de normal, là. C'est pas un individu.
Non, il l'a suivi. Écoute, Ghislain Laplante et son nom avaient tout prévu, comme je disais, pour la garder.
Exact.
Il était obsédé par cette enseignante-là qui n'a pas réussi à enlever la première. Il suivait ses parcours de jogging, là. T'sais, il était complètement. Il documentait ses allées et venues.
Oui. Est-ce que ça s'est estompé parce qu'il y a eu une sentence ou parce qu'il va avoir quelques années de prison? Il va falloir s'en assurer parce que la protection du public, puis je comprends tellement les victimes là-dedans, là, je serais embarrée en quelque part si je savais que ce monsieur, j'étais victime, là.
Mais elle a
j'aurais
peur.
Très peur, je comprends, j'ai lu le détail. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, j'imagine, de ton côté avec moi, c'est comment se fait qu'on a, parce que tu l'as dit, les victimes ne trouvent pas 5 ans et demi, c'est assez long. C'est, bon. D'abord, premièrement, d'emblée, là, c'est très rare qu'on trouve ça assez long là, quand on est une victime de ce genre.
C'est compréhensible.
Et c'est nettement compréhensible. Mm-hmm. Je sens que la juge a tenté de rassurer en disant qu'il s'agissait d'une décision juridiquement acceptable à cause de la jurisprudence. C'est parce que oui, c'est vrai qu'il existe de la jurisprudence dans ce domaine-là, et probablement qu'elle en a fait l'étude de A à Z. Je ne dis pas qu'on peut pas aller au-delà, parce que si c'est une fourchette qu'on prévoit en jurisprudence dans les autres dossiers, entre 3 et 5 ans, il y a rien qui dit que quelqu'un ne peut pas aller à 2 ans et demi, ou peut pas aller à 2 ans, ou peut pas aller à 8 ans. Là. C'est une fourchette. Maintenant, il faut que tu sois bien blindé dans ta décision quand tu veux vraiment taper sur le clou. Ici, est-ce qu'il y avait assez de circonstances atténuantes? À mon avis, il n'a assez pour écrire un livre. Là. Alors, il y avait énormément de circonstances atténuantes. Est-ce qu'on était vraiment sur la limite? Parce qu'on a accordé 5, entre 3 et 5, on est allé à 5 quand même, 5 et demi.
C'est le max, ouais.
Mais tout le temps, ces gens-là, il faut se mettre dans la tête, ils vont revenir en société. C'est l'encadrement puis les conditions par la suite qui vont être d'une importance capital, mais ça protégera pas la santé de ces victimes-là, c'est-à-dire la santé, les craintes, ça protège, tu sais, ils vont toujours être craintés.
Mais oui, puis évidemment, puis parce qu'il faisait une obsession, puis là on s'en va dans une autre histoire d'obsession, un harceleur compulsif, qui a envoyé là, Nicole, des textos, des messages au personnel d'une clinique médicale. On parle dans 3000 et 6000 courriels, ok? N'avait là-dedans qui était très anodin. D'autres contenaient des menaces de mort, des mots comme « la chasse est ouverte ». On a menacé les enfants de ces femmes-là, c'est-à-dire lui menaçait les enfants de ces femmes-là, menaçait de leur transmettre le VIH. Donc ça, c'est une menace aussi de viol voilé. D'autres messages qui référaient à une envie de tuer. Donc vraiment, cet homme-là, très, très inquiétant, très peu rassurant. C'est ce qu'a expliqué Denise Galia Stato. Oui. Et puis, les gens sont un petit peu, comme on pourrait dire, circonspects parce que... on suggérait des travaux communautaires, je veux dire, à un moment donné.
Là, je salue. Je me souviens avec toi, la semaine dernière, on a dit, ben voyons donc, comment se fait qu'après X nombre de fois qu'il a brisé sa remise en liberté, on l'a remis en liberté, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, je t'expliquais que le tribunal, un coup que la sentence est rendue, et je dis bien qu'on est en contexte de sentence ou qu'on s'en va vers là. Bon, on n'est pas là ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que le juge a dit non un instant. Moi, là, je regarde tout ça. Je suis allée la chercher, la décision, parce que ça m'intéressait énormément. Oui. Il a retiré. Il a fait ce que souvent la couronne pouvait demander, mais lui, de lui-même, là, après ce qu'il a tout vu, là, il a dit, écoutez, moi, mon obligation, c'est aussi de protéger le public, les victimes. Puis ce que je vois là, je suis pas satisfaite.
Mais là, on parle pas de 3-4 courriels, là.
Oui, non, pas du tout. Mais c'est parce que là, il a tout retiré son privilège de remise en liberté. Tu sais, il était en liberté provisoire. Il a tout retiré suivant ceci. Il a dit, non, moi, je l'ai fait, mais dans d'autres circonstances, là. Il a pris un article du Code criminel qui lui permet de faire ça. Il a annulé l'ordonnance de mise en liberté. Il a émis un mandat d'arrestation. Il l'incarcère. Il y a des interdictions de communiquer pendant la détention. Il a vraiment... Il s'est vraiment assuré de la protection envers les victimes. Puis en plus, il a ordonné au DPCP d'informer l'enquêteur au dossier de l'existence du mandat et d'ordonner, ça c'est quelque chose là, ordonner de transmettre par télécopieur aux victimes, la décision qu'il a rendue.
Très bien.
En vertu, dit-il, de l'article 7 de la Charte des droits des victimes. Fait que je salue cette décision-là, vraiment.
Très bien, Nicole, on se parle demain.
Merci, bye-bye.